Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Valérie.
Bonsoir Caroline, merci beaucoup de me recevoir sur l'antenne. Je suis très émue et ça va être difficile pour moi. Et je vous remercie infiniment et je remercie également Paul qui a été adorable et toute l'équipe. Voilà.
Ah ben vous êtes la bienvenue Valérie.
Merci. Merci.
Alors de quoi voulez-vous nous parler ?
Alors, je vais essayer d'être simple dans les faits. J'ai un fils qui a aujourd'hui 17 ans,
oui.
Qui est mon quatrième enfant, qui est parti il y a 2 ans, qui a fugué il y a 2 ans. Et donc, aujourd'hui, je n'ai plus de nouvelles. Je n'en ai plus pratiquement depuis le moment de la fugue, à savoir que ça s'est passé de manière complètement inattendue, qu'au départ, j'ai pas forcément compris que ça allait prendre cette tournure, que ça pouvait être grave. J'ai pensé à un coup de tête, vraiment, je suis pas du tout partie sur quelque chose de potentiellement durable. Et depuis 2 ans, je sais plus, j'ai plus de nouvelles, je sais plus quoi faire, je suis perdue.
Mais attendez, vous n'avez plus du tout de nouvelles de votre fils depuis 2 ans. Vous ne savez pas où il se trouve.
Alors je sais où il est parti chez son père. Hein.
Je pensais que c'était une disparition inquiétante. D'accord, donc il est chez son père.
Il a fugué chez son père. Alors à savoir que son père, lui, en fait, il y avait eu une dispute sur un week-end, mais une dispute familiale. J'étais à ce moment-là fatiguée. Et il y avait effectivement une grosse dispute familiale dans laquelle même j'avais, pour vous donner un détail, pour vous montrer l'ampleur de la dispute, j'avais cassé la télé. Mais le jour où mon fils est parti, j'avais la veille racheté la télé. Donc voilà, l'histoire de la télé était réparée, les choses étaient...
Donc il y a eu une dispute, oui, entre vous, et ce qui peut expliquer qu'il soit parti chez son père finalement.
Alors, je ne sais pas comment une simple dispute d'ordre familial peut expliquer qu'un gamin parte à 800 km, ni qu'un père...
Ça peut arriver à cet âge-là, vous savez. Oui, voilà. Actes très impulsifs, et puis peut-être que, bon, il voulait... quand il s'est fâché avec vous, et donc le recours était d'aller voir son père. Mais ce qui pose question, c'est que depuis 2 ans, vous n'avez plus de nouvelles, donc le père joue un rôle dans cette histoire, parce que ça peut arriver que le parent reçoive dans l'urgence, mais dans ces cas-là, prévienne l'autre parent, et dise, même si tu t'es disputé avec ta mère, il faut que tu la vois.
Alors le père, il faut savoir que j'avais la garde de mon fils depuis toujours, que le père avait demandé la garde à plusieurs reprises, ne l'avait jamais obtenue. Donc j'étais une maman, je ne peux pas dire irréprochable, mais normale, enfin, tout se passait bien.
Mais pourquoi le père n'avait pas obtenu la garde?
Parce qu'il n'était pas. Parce que mon fils était équilibré là où il était, en tout cas, ça a été jugé comme tel. Donc
oui,
il a été maintenu
certes,
dans sa
structure familiale. Mais en général. Oui, mais enfin, il y a quelque chose qui m'interroge. Même s'il est très bien avec vous, dans sa structure familiale, comme vous dites, il a un père. Si un juge dit... Ah, il le voyait, d'accord.
Il le voyait, il n'avait pas la garde, il n'avait pas obtenu la garde, mais il avait un droit de visite
et d'hébergement
qui était respecté, sauf les 8 derniers mois où justement mon fils, de son plein gré, de son propre chef, avait décidé qu'il ne souhaitait plus y aller. Alors c'est d'autant plus étonnant, et ça, je comprends d'ailleurs encore moins les choses. Il ne souhaitait plus y aller, il n'appelait d'ailleurs plus non plus son père parce qu'il m'avait dit non, il avait un téléphone portable, donc il faisait ce qu'il en voulait. Il appelait son père aussi souvent qu'il le souhaitait.
D'accord.
Il n'y avait pas de souci avec ça. Moi, je ne m'en mêlais pas parce que je n'ai plus aucun contact avec cet homme-là depuis le début, mais je ne m'en mêlais pas.
C'est-à-dire vous êtes séparés très tôt après ça.
On n'a jamais vécu... Mon fils ne nous a jamais connus ensemble, en fait.
Ah, d'accord. D'accord.
Voilà.
Il l'a reconnu.
Et j'ai fait ce que j'ai pu pour que les liens soient maintenus dans des moments même où il n'avait pas des droits de garde plus élargis. Je le laissais plus facilement. J'étais plutôt, je crois, souple, sans pour autant, effectivement, véhiculer une image très positive de ce père-là. Parce qu'il n'y avait pas de raison que je le fasse. C'était compliqué. Et voilà, enfin, on en était là. Donc, mon fils a trois grandes sœurs qui sont d'un autre papa, mais avec lesquelles il entretenait une excellente relation, une relation même fusionnelle. Enfin, pour moi, c'était un quatuor qui était inébranlable. Inébranlable, et puis tout est parti en vrille. Quoi. C'était ma vie, moi, ces quatre enfants, et je comprends pas ce qui est arrivé, je sais pas. Je ne comprends pas.
Mais vous n'avez pas de nouvelles, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en contact avec son père? Il ne vous donne pas des nouvelles?
Non, mes filles qui sont, elles, moi je ne suis pas dans la région où réside actuellement mon enfant, mais mes filles sont tout près. Elles ont essayé, j'ai une de mes filles qui a même essayé d'aller lui chanter son joyeux anniversaire. C'était quelque chose qu'on faisait vraiment, enfin, c'est très, très important pour nous les anniversaires, on a toujours, voilà, enfin, comme dans beaucoup de familles, hein. Mais c'est, voilà, elle est allée chanter sous la fenêtre, elle a passé des coups de fil, elle m'a dit je le ferai plus parce que ça me ferait trop de mal.
C'est étrange, ça, comme, enfin, c'est curieux, mais bon. C'est curieux, d'aller chanter sous la fenêtre.
Bah, parce qu'elle n'a pas réussi à l'appeler, elle a tout fait. Oui. Elle a téléphoné sur le téléphone de son frère, sur le téléphone du papa,
âge, votre fille.
25 ans.
Ah oui, c'est ça, je croyais que c'était une...
Ah non. Ah
bon. Bon. Alors, il y a quand même... le nœud du problème, semble être dans la relation entre vous et le père aussi, qui est très... Enfin, c'est inexistante et qui a été très conflictuelle, puisque, au fond... Voyez,
oui,
ça,
alors comme
il y a quelque chose qui part de là,
j'imagine. Comme je l'ai expliqué à Paul, en fait, cet enfant est né dans un contexte extrêmement malsain, à savoir que quand j'ai rencontré le papa, j'étais fraîchement divorcée avec mes trois petites filles qui étaient toutes petites, hein, qui avaient 2 ans, 4 ans et 6 ans. Et cet homme-là était étudiant en médecine. Et pendant un an, ça paraît surréaliste, mais pourtant c'est ma vie. Il m'a mimé des crises d'épilepsie et des crises de perte de connaissance, des absences, en me prétendant, tout ça en étant étudiant en médecine, en me prétendant qu'il avait une tumeur au cerveau, que personne ne le savait, qu'il était condamné, qu'il était suivi par un professeur en neurologie dont il m'a cité le nom à ce moment-là, et que moi j'avais la chance d'être maman, que lui voulait être papa et voulait un enfant. Voilà comment Antoine est né. Et quand j'étais
qu'à un moment, donc ça veut dire que, comme vous dites, c'est assez surréaliste de l'extérieur, mais ça veut dire que dans ce contexte-là, vous dites si Antoine est né, c'est que vous avez accédé à sa demande aussi.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Je pense que j'avais
déjà
envie d'un quatrième enfant.
Oui, c'est ça.
Tout à fait. Je suis d'accord, mais je pense que j'avais effectivement envie d'un quatrième enfant. Je me sentais tout à fait capable de les aider, ça, ce que j'ai d'ailleurs fait au final. Et finalement, j'étais dans l'altruisme complet par rapport à la pathologie que je croyais existante.
Oui, mais pas par rapport à l'enfant.
Mais
parce que c'est très particulier dans ce contexte, mettre un enfant au monde alors que le père se disait condamné.
Oui.
Mais en plus, bon, vous dites qu'il mimait des scènes, enfin des crises d'épilepsie. Bon, un homme qui vous dit, quand bien même, il est très bon comédien, il a des connaissances en médecine. Il vous dit qu'il a une tumeur au cerveau, qu'il est condamné. Enfin, j'imagine qu'on cherche à en savoir davantage.
Alors,
il vous donne le nom du professeur, de rencontrer ce professeur ou de lui téléphoner, de finalement savoir ce qui se passe.
On n'a normalement pas le droit de le faire. Il se trouve que étant moi-même médecin, j'ai eu accès aux informations et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il n'y avait pas de dossier et que l'histoire était du bluff.
Oui, mais vous l'avez découvert.
J'étais enceinte de 2 mois.
Oui.
Je l'ai découvert, et c'est, je suppose, parce que j'étais enceinte que je me suis mise à chercher, en fait, et que j'ai trouvé les informations.
Bon, enfin, quoi qu'il en soit, vous aviez-vous envie d'un enfant qui est né, effectivement, dans un contexte très particulier. Donc, c'est quand vous avez découvert c'est tout ça reposé sur du mensonge que vous avez rompu avec le père ?
Tout à fait. J'ai rompu une première fois, après on a réessayé parce que mon fils a été malade à l'âge de 18 mois et on a
Vous étiez quand même très éprise de cet homme.
Non, du tout. Non, pas du tout, mais j'étais prise
de l'extrême. C'est curieux parce que vos propos semblent dire le contraire. On ne fait pas un enfant à un homme comme ça.
Eh ben, j'étais prise de la vie de famille qui avait été détruite par mon divorce, qui je pense a été un énorme traumatisme. Et je pense que je voulais recréer avec cet homme-là une vie de famille. Je voulais.
Mais oui, puisqu'il vous disait qu'il était condamné.
Oui, oui, oui. Mais le paradoxe est énorme. Je pense que j'étais quelqu'un de très abîmé, très cassé à ce moment-là. J'étais jeune, j'avais 28 ans. J'étais en plein dans mes études, dans une situation instable financièrement, avec des parents qui n'ont jamais été aidants. J'étais assez seule avec mes trois filles. Et cet homme-là me paraissait en plus être l'antithèse du père de mes filles. Ça a certainement dû jouer, le père de mes filles étant un artiste. Voilà, cet homme-là était étudiant en médecine, son père était médecin. Il y avait un côté rassurant malgré cette histoire de
tumeur. Oui, c'était tout sauf rassurant.
C'était tout sauf rassurant, mais il y avait une partie qui l'était, une partie qui ne l'était pas, et puis il y avait ce désir d'enfant, très certainement, qui a pris le dessus. Hein, je pense que quelque
mais
part.
Mais alors, vous vous êtes séparés, donc il a reconnu votre fils, son fils également, bien sûr. Oui, et donc il a très tôt, enfin, il a eu. Comment ça se passait? Comment vous lui avez parlé à votre fils, au fond, de cette histoire, de votre rencontre des... Qu'est-ce qu'il sait de. Comment vous lui parliez de son... Ah, il sait tout.
Oui.
Oh là 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 là.
Alors, je vous sais, avez Françoise dit que son Dolto père... Françoise Dolto dirait que c'est pas bien.
Mais c'était votre histoire à vous deux, ça. Et c'était votre problématique à vous deux.
Mais oui, parce que je...
Donc, vous lui avez dit que son père avait... vous avez menti en mimant des crises d'épilepsie.
Oui.
Oh là là.
Oui. Oui, c'est vrai qu'il l'a su, parce que ses sœurs le savaient, parce que je peux pas partir du principe qu'on dit les choses. Enfin, c'est peut-être une erreur, c'est certainement une erreur là en l'occurrence.
Faut pas tout dire, non.
Mais bon, de toute façon, je referai pas l'histoire et ça sera refaire sans doute.
Oui, mais c'est important. Non, mais c'est important parce que vous me dites, Valérie, je comprends pas ce qui se passe. Et en fait, on voit bien dans, à un moment, il y a une dispute banale et il part chez son père. Il part comme ça chez son père. Ce père, au fond, il part pas à n'importe quel moment d'ailleurs. Il a 15 ans, c'est au moment de l'adolescence. C'est un garçon vivant avec vous et trois sœurs. Besoin de se retrouver un père et des repères finalement, de le découvrir, de faire connaissance avec lui.
Il y partait en vacances régulièrement, il ne voulait plus y aller, c'est paradoxal. C'est tout aussi paradoxal.
Pas toujours, vous savez, on est d'abord nous-mêmes plein de paradoxes, et puis l'adolescence est l'âge des paradoxes, par excellence. Mm. C'est pas si étonnant que ça. C'est pas si étonnant que ça, au vu de cette histoire et de ce lien complexe et conflictuel que vous avez avec son père.
Que je n'ai pas, hein, parce que j'ai rien entretenu. Moi, Antoine a su l'histoire et puis c'est tout. Hein. Après, moi, j'en parlais pas. Quelle histoire ? J'en conviens. La lourdeur, je suis la première à l'avoir subie et en avoir subi la déconvenue et le traumatisme, je dirais, parce que je n'ai du coup plus jamais confiance en personne. Et j'ai pu constater de par ma profession que les simulateurs, ça existait et bel et bien. Et c'est
oui, enfin, à ce point-là, on n'en rencontre pas tous les quatre matins.
Aussi.
Non, je ne peux pas vous laisser dire ça.
Urgences, je les vois. Enfin, c'est-à-dire que non, on n'en rencontre pas tous les quatre matins dans la vraie vie. Mais dans ma profession, on en rencontre, ça existe, malheureusement. Bon,
toujours. Enfin, justement, si vous êtes médecin urgentiste, vous pouvez pas dire non plus. Il y a des gens qui viennent, qui ont des symptômes, qui ne peuvent s'exprimer qu'à travers leurs symptômes. Il y a des gens qui viennent aux urgences et en fait qui ont des troubles psychiques, voire psychiatriques. Mais dire que on voit beaucoup, beaucoup de simulateurs, c'est un peu faire offense à votre métier d'urgentiste, je trouve. Parce que justement, quand on est urgentiste, on est là pour soigner au fond les maux et les symptômes qui s'expriment, que parfois les gens ne savent pas exprimer autrement, au fond, qu'à travers leur corps.
Probablement que le père de mon fils exprimait quelque chose à travers ça. Hein. On ne va pas faire son diagnostic, mais...
Vous vous interrogez sur ce silence et votre fils est pris, je trouve, dans une histoire terrible. Où finalement, étant donné le lien très conflictuel, avec le père, c'est où on est avec l'un ou on est avec l'autre. Mais être avec l'un, c'est trahir l'autre. Et pendant des années, l'image, il a grandi avec une image de père assez négative, au vu de ce que vous nous dites. Et aujourd'hui, enfin, on sait, dans des contextes beaucoup moins complexes, c'est assez fréquent quand les parents sont séparés. C'est assez fréquent, justement au moment de l'adolescence, que le parent qui a la garde de l'enfant, c'est compliqué pour lui, voit son fils ou sa fille demander à vivre avec l'autre parent, celui qu'il voit moins souvent.
Alors là, je peux vous arrêter et vous dire qu'il était question, et j'en avais parlé longuement avec mon fils, qu'il aille quand il le souhaitait vivre avec son père, parce que je considérais de moi-même et de principe qu'il aurait certainement besoin d'un repère masculin à un moment donné. Donc c'est un discours qui avait été évoqué à X reprises et que la porte était totalement ouverte à un changement éventuel de domicile en toute bonne entente si son père avait été d'accord. Et il en avait été question 2 ans avant. Et 2 ans avant, il y avait, puisque son père avait demandé à ce moment-là la garde et ne l'a pas obtenue, j'avais dit à mon fils, alors c'est bon, cette fois tu vas pouvoir aller vivre chez ton père. Il a fondu en larmes. C'était pas vrai d'ailleurs. C'était comme ça, j'avais dit ça, on avait plaisanté avec ses sœurs, c'était pas très malin d'ailleurs. Et il avait pleuré parce qu'il ne voulait pas partir de la maison. Et il savait, on en avait donc reparlé longuement après, puisque ça avait déjà été évoqué, de par le fait que le père demandait la garde d'ailleurs, ça avait été évoqué, et je lui avais dit, on parlait très très ouvertement, et j'ai toujours parlé énormément avec chacun de mes enfants, de tout, y compris de ce fait-là, que s'il voulait à un moment aller de surcroît vivre moi à la campagne, un adolescent ayant peut-être envie d'aller vivre en ville, bon, même si avec la Covid finalement, c'est maintenant presque l'inverse, mais bon, ça c'était pas prévu au programme. Je lui avais dit, si tu veux, pour le lycée, partir, voilà. Donc cette question, elle était vraiment ouverte. Ouverte. Et il en parlait également avec son parrain, dont il était très proche, avec lequel il avait eu une conversation 15 jours avant son départ précipité, et en lui disant que non, de toute façon, il n'est pas question, que ce n'était pas du tout à l'ordre du jour, et que peut-être un jour, il voudrait, mais quand il serait plus grand à l'université. Il n'y avait pas de souhait d'aller, en tout cas, exprimer. Hein.
C'est ça. Mais oui, mais parce qu'au fond, derrière ce qui est exprimé, il y a aussi tout le poids de cette histoire. Et que votre fils n'était pas sans savoir que le lien entre vous et son père était plus que conflictuel.
Alors, il faut savoir aussi qu'au décours de toutes ces années, il y a eu un moment où je me suis rapprochée géographiquement et de moi-même, j'ai réélargi très largement le droit de garde immédiatement. En sollicitant ce père-là, en pensant ce que j'en pensais, mais sans plus en parler puisque les choses avaient été dites et qu'il n'y avait pas lieu de revenir dessus, et que j'avais de moi-même réélargi un droit de visite, avec un droit de visite le week-end, un droit beaucoup plus régulier qui n'était d'ailleurs pas forcément souhaité par le père, hein, avec un père extrêmement absent qui n'appelait jamais son enfant, qui ne l'appelait jamais, qui d'ailleurs vraiment ne l'appelait jamais, puisque mon fils souhaitait
les quelques derniers mois. Mais justement, le parent qui souvent est le moins présent, il en devient très désirable. C'est comme ça, ça ne veut pas dire... Et c'est à un âge, finalement, où il est dans ce besoin d'avoir, au fond, de se construire sa propre vérité. Parce que finalement... ce qui serait important de faire, c'est de renouer un dialogue avec le père, en fait.
C'est impossible.
Ah ben oui.
C'est impossible.
Si c'est impossible, donc la situation, elle est sans issue. Parce qu'effectivement, c'est mettre votre fils dans une situation intenable.
Je me suis fait taper dessus, Caroline. J'y suis allée, hein. J'y suis allée. Bah,
vous vous faites taper dessus et en même temps, vous demandez un droit de visite élargi.
Non, c'était au moins après la fugue de mon fils. Je me suis rendue, bien entendu que j'ai fait les kilomètres, vous imaginez bien que ne comprenant rien, je me suis rendue, et je l'ai fait à ex-reprise, c'était à 800 kilomètres, je me suis rendue sur place pour essayer de comprendre ce qui se passait. J'ai attendu son père à l'entrée de sa résidence en lui disant il faut qu'on, pour, dans l'intérêt d'Antoine, et ce n'est pas pour le mettre dans ma voiture ni quoi au caisse, c'est simplement dans son intérêt, est-ce qu'on peut aller parler en lieu neutre de lui, de son évolution, même de sa scolarité, enfin des choses utiles. Je me suis simplement fait taper dessus.
Bon, vous avez déposé plainte.
J'ai déposé plainte.
D'accord.
Sans suite.
Vous voyez
bien sûr,
comment, pourquoi sans suite?
Bah parce que tout ça a été classé sans suite.
Bah si vous a tapé dessus, vous n'avez pas vu un avocat à ce moment-là, fait un courrier au procureur?
Non, j'ai pas voulu entrer dans tout ça.
Bon, enfin, votre fils, vous voyez dans quel lien est pris votre fils?
Non, mais j'entends bien, mais qu'est-ce que je fais moi de tout ça? Pourquoi est-ce que moi aujourd'hui, mais
vous
qui demandez, est
vous,
enfant
vous déjà,
seul,
vous,
qu'est-ce que je fais?
Bah, oui, à la
c'est
fois,
ça ma question.
Vous... Mais oui, mais justement, le lien, il faut trouver un terrain d'apaisement parce que votre fils est pris dans une situation impossible. Où si il est avec son père, il est contre vous, et quand il est avec vous, il est contre son père.
Non, c'était pas comme ça. Il n'était pas contre son père quand il était avec moi. C'est moi qui lui demandais de l'appeler pour son anniversaire. C'est moi qui lui demandais, oui, de l'appeler pour la fête des pères. Oui. Je lui ai fait acheter des cadeaux. C'est moi qui l'emmenais. Je faisais les 800 km en train. Je dormais à l'hôtel. Je refaisais les 800 km dans l'autre sens.
Bon, bien, alors dans ces cas-là, vous ressaisissez le juge aux affaires familiales et vous demandez, vous faites part des nouveaux éléments, parce que depuis 2 ans, alors que vous avez, d'après la dernière ordonnance, c'est vous qui avez la garde et le père des droits de visite.
Je ne l'ai plus entre temps.
Pourquoi vous ne l'avez plus?
Alors parce que quand Antoine, comment, du juge. Oui, comme voilà, entre temps, quand mon fils est arrivé, mais directement derrière, c'est là où je pense que c'était organisé, enfin, je sais pas trop quoi. Le père a emmené mon fils porter plainte contre moi pour violence. Plainte qui, bien sûr, a été classée sans suite. Je n'ai même pas été auditionnée pour cette plainte, pour vous dire. Je n'ai même pas été auditionnée.
Pour votre fils, c'est terrible pour cet enfant. Franchement,
c'est terrible pour
entre la
enfant.
Violence entre vous, les conditions de sa naissance, ce lien.
Mais j'avais un lien extraordinaire avec cet enfant. Il faut quand même replacer les choses.
Oui, mais il y a quand même quelque chose qui fait problème. C'est-à-dire, c'est que à un moment, cet enfant, il y a quelque chose de son histoire aussi où qu'il veut se réattribuer. Et vous êtes dans un lien tellement problématique avec le père que je vous le redis encore une fois, pour lui c'est ça ne peut devenir que très conflictuel.
Alors parce pourquoi il parle plus à ses sœurs non plus? Je suis moi à 500 kilomètres. Les sœurs sont dans la même ville. Bon,
ses sœurs sont associées à vous. À un moment il y a un rejet. Si vous voulez, parce que malheureusement, de tout ce qui est maternel, comme vous avez, il a grandi avec vous et ses sœurs, vous êtes proche de vos filles. Finalement, comme à un moment il a pris la décision d'aller du côté paternel, tout ce qui est associé au maternel, pour le moment, est rejeté.
Donc, y compris vos filles. Qu'il y a une emprise du père sur le. Il n'y a plus de réseaux sociaux, il n'a plus aucun contact
avec ses amis. Au-delà de l'emprise, c'est le lien entre vous qui est très problématique dès le départ. Et qui est.
Donc, c'est de ma faute, en fait.
C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, Valérie. C'est justement, j'essaie de sortir de cette logique très manichéenne. Il y en a pas un qui
qu'est-ce
fait
que j'aurais dû faire alors? J'aurais dû dire que son père était formidable avec ce que j'avais moi-même enduré.
Mais c'est pas du tout ce que je vous dis, Valérie. C'est pas du tout ce que je vous dis.
J'ai juste dit la vérité.
Moi, j'essaye d'entendre le point de vue de l'enfant dans cette situation. C'est une situation infernale.
Enfin, il a 17 ans. Il a entre-temps, il a 17 ans, il est en pleine adolescence.
En pleine adolescence, c'est un garçon. Et finalement, et je pense en général, ces situations finissent par s'apaiser et se calmer. Vous n'avez pas entendu, mais je vous disais que c'est quelque chose d'assez fréquent dans les situations où les parents sont séparés. C'est assez fréquent que à un moment donné, justement au moment de l'adolescence, l'enfant demande à aller vivre, cela arrive, chez le parent qui a un droit de visite. Et c'est souvent très douloureux pour le parent qui, comme vous, a été présent au quotidien, l'a élevé, a fait aussi les bons et les mauvais côtés, de se dire, bah, ça y est, finalement, maintenant, au fond, il n'y a plus que le père ou il n'y a plus que la mère qui compte. C'est une étape, souvent, dans le développement. C'est-à-dire que ce parent qui est plus absent, il en devient très désirable. Et il y a un désir aussi chez l'adolescent, au fond, de se réapproprier son histoire. Et finalement, de comprendre et de faire un peu mieux connaissance avec ce parent qu'il voit moins. D'autant plus au vu du contexte dont vous me parlez. Et il y a, à mon avis, les choses vont finir par entrer dans l'ordre. Mais pour le moment, le problème de fond, si vous arriviez à avoir un échange avec le père, c'est-à-dire que, à dire, il faut qu'on trouve quelque chose, qu'on fasse à ce moment-là une médiation, qu'on essaye pour notre fils. C'est-à-dire que votre fils ne se voit pas pris dans cette situation impossible, qui est aussi une source de souffrance pour lui. De, s'il est avec sa mère, c'est contre son père. S'il est avec son père, c'est contre sa mère. Donc oui, bien sûr, le père, au vu de la relation que vous me décrivez, entre vous deux, depuis le départ, très certainement donne une toute autre version de l'histoire. Bien sûr. Voyez, et donc, votre fils, il est pris entre tout ça et essaie, au fond, de se construire sa vérité.
Une vérité qui va être manipulée par le père et qui est manipulée par le père depuis 2 ans.
Mais pas forcément. Écoutez, la manipulation, dans ce que vous me décrivez, on en a parlé, Valérie. C'est fou, les débuts de votre histoire. Vous l'avez dit vous-même, c'est surréaliste.
Justement.
Vous êtes médecin, cet homme qui mine des crises. Bon, vous voyez, à un moment, bon, vous décidez quand même de faire un enfant avec lui. Bon, on va pas refaire l'histoire, votre fils, il est là. Mais vous vous rendez compte la violence du truc dès le départ, hein? Je suis pas étonnée, finalement, que votre fils y réagisse comme ça. Là où vous en faites, évidemment, c'est douloureux, mais où vous prenez encore quelque chose contre vous.
Non, moi, je pense qu'il est en danger, en fait.
Mais en danger de quoi ?
Je pense qu'il est en danger d'être auprès d'un homme qui est ce qu'il est. Je sais ce qu'il est.
Oui, mais alors, ce qui est étonnant,
Valérie...
Oui, mais alors, Valérie, ce qui est étonnant, c'est que vous me dites... Vous voyez bien, on voit bien, au fond, l'image que vous avez de son père et qui... Vous avez vos raisons.
J'en ai peur de son père.
Bon, ben oui, vous en avez peur, mais en même temps, vous me dites vous-même que vous aviez élargi le droit de visite, que vous aviez fait en sorte de...
Il paraît qu'il faut entretenir le lien.
Non, non, Valérie,
vous me dites que là, il cherche à le connaître, c'est ce que j'ai voulu faire. C'est ce que j'ai voulu
Je vous arrête tout de suite. Il n'y a rien d'obligatoire. À partir du moment où, en tant que parent, on pense que l'autre parent est un danger pour l'enfant, il n'y a aucune obligation à dire il faut entretenir le lien.
Il y a même l'obligation. Pour le connaître.
Il y a même l'obligation. Il y a même l'obligation. De protéger l'enfant. Et dans ces cas-là, effectivement, il est possible de saisir un juge des enfants, parce que c'est plus du ressort du juge aux affaires familiales, et de dire, je considère que ce parent est totalement défaillant, j'en demande la garde exclusive, il y a une enquête.
Ouais, voyez, je connais tout ça. J'y ai pensé, mais ça n'aurait pas abouti. Avec un tel personnage en face, ça n'aurait pas abouti. Je vous le dis, vous savez pourquoi.
Comme vous... Oui, mais vous voyez, Valérie, le fond du problème... Vous avez vos raisons, mais vous voyez que vous êtes en train de me dire, vous dites une chose et l'autre. Vous êtes en train de me dire que vous avez fait grandir votre fils dans un contexte où vous lui parliez bien de son père, il avait le droit d'aller le voir, vous avez élargi le droit de visite, et au fond, là, vous êtes en train de me dire, mais ce père-là, c'est un manipulateur, il est terrible, il est capable du pire, il est... Donc, ben, votre fils, il a aussi grandi avec ça. Et je ne dis pas, moi je ne sais pas, je ne connais pas votre histoire. Et comme vous dites, vous avez vos raisons, et vos raisons sont peut-être fondées. Mais dans ces cas-là, si vous pensez qu'il y avait un si grand danger pour votre fils, eh ben, il y a des recours possibles au niveau de la justice. Et là, ça suppose, je vous le redis, de saisir un juge des enfants. Et en disant non, je ne souhaite pas que mon fils voie son père. Mais pourquoi vous dites ça ?
Parce qu'il est suffisamment manipulateur, très très intelligent. Il a un QI à 190, qu'est-ce que vous voulez faire contre quelqu'un comme ça ?
Il m'a manipulé, écoutez, moi, s'il a rien à faire des QI.
Pendant six ans, il est capable de manipuler tout le monde.
Bon, mais ce qui est terrible, c'est que, au fond, Votre fils, il a grandi avec l'image d'un père terrible, enfin très dévalorisé. Et aujourd'hui, il est chez son père qui doit tenir un autre discours, mais aussi dans le, très conflictuel, très dévalorisant vis-à-vis de vous. Et cet enfant, c'est, enfin ce jeune homme, puisqu'aujourd'hui il a 17 ans, est pris dans cela. Donc on
et
est...
maintenant, qu'est-ce que je suis. Alors, à part essayer de renouer un contact que je n'arriverai jamais à renouer avec le père, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ses sœurs, par exemple? Quel discours est-ce que je dois tenir? Qu'est-ce que je dois dire, ne pas dire? Je n'arrive plus à être bien avec personne. Ma fratrie qui
Faites-vous
est
finie
a complètement explosé.
Faites-vous aider à aller parler un peu de toute cette histoire, je crois, okay. Déjà pour vous. Pour prendre un peu de recul, pour parler de votre souffrance. Et pour trouver une voie de dégagement, parce qu'à mon avis, c'est un moment de. Il avait besoin, au fond, ce père dont il entendait parler, ou même, vous savez, quand on n'en parle pas, il y a des choses qui passent. Il avait besoin d'aller voir par lui-même qui il était. Et à un moment, il y a tout lieu de penser qu'il reviendra vers vous. Parce qu'il y a toutes ces 15 ans d'histoire, c'est vous qui avez été là dans sa vie et un pilier.
Est-ce que je suis, par exemple, je vous demande là vraiment un avis très, 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 très neutre, très, très posé. Si j'allais, alors là, c'est pas dans le contexte puisqu'on est confiné et que je suis pas dans la même région, mais est-ce que si j'essayais ou si c'est ça d'essayer d'aller à la sortie du lycée, est-ce que c'est une bonne idée? On y a pensé, on ne l'a pas fait.
Pas plus que d'aller chanter sous ses fenêtres.
Ça aussi, c'était une erreur. Alors, la gamine, elle ne savait plus quoi faire. Elle pleure son frère.
Elle avait 25
jours,
ans. Enfin, je veux dire, non, c'est pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, de la même façon, vous dites, c'est là aussi, vous me dites, il part, vous faites 800 km, vous allez chez ce père, vous me dites, vous en avez peur. Finalement, il vous frappe. Enfin, vous voyez, à un moment, c'est quand. Une relation de ce type, c'est au niveau de la justice qu'il faut saisir. Et dire, je suis préoccupée. Voilà, je suis inquiète.
Je suis allée voir un avocat, j'ai obtenu une visite, des visites médiatisées, j'ai choisi ce principe-là pour que ça aille vite, pour revoir rapidement mon enfant, que j'ai revu une fois, et il n'y a plus de visite derrière, parce que voilà, ce serait trop long de vous expliquer à l'antenne, d'autres personnes ont aussi besoin de votre aide, et ça s'est arrêté là. Ça n'a pas du tout été productif, ça a même été à l'encontre totale de ce qu'on pouvait en attendre. Pour l'un et pour l'autre.
C'est-à-dire qu'effectivement, avec un adolescent, un juge l'entend. Et pour le moment, dans un contexte... C'est terrible, mais il y a une auditrice, Bambi, qui dit « Tout ce que vous vivez de douloureux ne remet pas en cause l'amour que vous avez pour votre fils. »
Mais il
est pris en otage. Et elle a raison, c'est le mot, il est pris en otage. Alors elle dit tout ce que vous pouvez faire pour... Oui, mais en otage entre vous deux, entre votre histoire de départ. Laissez-le faire son cheminement pour qu'il ait l'impression de pouvoir décider de sa vie. Parce qu'à l'adolescence, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, l'adolescent, il a besoin de se réapproprier de sa vie, d'être aux commandes de sa vie. Donc... il va, lui, à un moment, se... Faites confiance aussi à son intelligence.
Est-ce que je dois continuer à envoyer des messages? Est-ce que ses sœurs doivent continuer? Est-ce qu'on doit arrêter? Est-ce que... C'est toutes ces questions-là.
Alors, envoyer des messages, tout dépend la teneur des messages.
Gentil, genre, comment vas-tu? Comment ça se passe à l'école?
C'est-à-dire prendre des nouvelles, oui. C'est-à-dire dire que vous êtes là et que vous ne lui en voulez pas. Justement, même si c'est très douloureux, parce qu'au fond, c'est terrible.
Je ne lui en veux pas d'ailleurs.
C'est-à-dire que, au fond, il est pris dans quelque chose. Vous voyez, être avec son père, c'est vous trahir. Et son père a certainement doit dire, finalement, il est au courant de votre lien. Et son père peut très bien jouer là-dessus en disant, écoute, ne réponds pas à ta mère, tu sais comment elle est. Et au fond, faire passer le message, si tu réponds à ta mère, si tu donnes des nouvelles, t'es contre moi.
Oui, j'entends.
Il est pris là-dedans. Oui. Il est pris là-dedans, donc même si il garde un attachement, il vous garde un attachement, il n'y a pas lieu d'en douter. Et c'est là où il faut que vous soyez un peu aidé et soutenu pour vous apaiser. Ce lien que vous avez construit avec lui n'a pas disparu. Simplement, dans cette histoire-là, vous répondre actuellement, c'est trahir son père. Donc il ne répond pas, pas plus qu'il ne répond à ses sœurs, parce que malheureusement, ses sœurs, elles sont apparentées, c'est-à-dire ses sœurs, elles sont avec vous. Donc son père, et elles sont d'un précédent mariage, donc le père va dire, ben voilà, c'est tout ce qui est du côté maternel, il faut laisser tomber. Faites confiance à son intelligence, à ce que vous avez construit avec lui. Oui, bien sûr, vous avez raison, et ses sœurs aussi, de lui envoyer des messages comme vous faites, gentil, de prendre des nouvelles, sans trop l'inonder de messages, non, mais
vraiment pour de dire
que vous pensez
Noël,
à lui, Laurent, que vous pensez... Voilà.
Ce genre de
choses. Bon. Et en fait, que vous ne lui en voulez pas. C'est ça, parce qu'il doit se sentir au fond de lui assez coupable.
En fait, il faut vraiment que je n'y aille pas. Ma question,
vous me dites quand vous y êtes allé, son père vous a tapé dessus.
C'était il y a deux ans. Hein, c'était il y a deux ans. Donc, bah, oui, mais, surtout pour le voir lui, c'est-à-dire y aller en évitant son père à tout prix.
Non, mais là, la question d'aller devant le lycée.
Parce que le temps passe, en fait.
Oui, mais c'est un non-sens. Vous allez le mettre dans une situation impossible. Aller devant le lycée.
Est-ce que ça peut pas être un électrochoc pour lui? J'ai peur qu'il.
Il en a eu assez d'électrochocs.
Si vous voulez, j'ai peur qu'il parte.
Mais c'est là, il faut que vous vous apaisiez. Parce que bien, comment voulez-vous qu'il vous oublie? Non, il ne vous oublie pas, bien évidemment. Le problème, c'est qu'il est, il est complètement coincé et piégé par cette histoire un peu folle. Il est coincé pour le moment, mais il essaie de comprendre certainement aussi. Mais le problème, c'est que il y a souvent dans des séparations où l'enfant, quand il y a quand même une relation beaucoup moins conflictuelle, l'enfant essaie de se faire sa propre version des faits. Il entend son père, il entend sa mère. Mais là, c'est tellement extrême que je vous dis, c'est comme s'il y a deux camps irréconciliables et lui, il est au milieu. Et il vous aime, il n'y a pas lieu d'en douter. Il est attaché également à ses sœurs, mais il avait besoin. Et c'est pas anodin, c'est un garçon aussi, et oui, en pleine adolescence.
C'est d'ailleurs pour ça que j'avais proposé éventuellement de partir chez son père à un moment donné, s'il en ressentait le besoin. Ça, j'en avais pleinement conscience, bien sûr, que travailler avec une maman et trois filles, c'était pas...
Oui, mais c'est ça qui m'étonne. Vous voyez, c'est là où c'est plein de... C'est qu'à la fois, vous disiez, il pouvait, s'il en a besoin, aller voir son père, et en même temps,
oui,
vous
parce
me
que
dites,
j'avais le
je le pense
hein,
en danger. Donc si on pense son enfant en danger...
Au vu de la réaction du père aujourd'hui, par rapport à ce qu'il y a eu... pendant 15 ans, si vous voulez, comme il allait en week-end, en vacances, ça se passait à peu près correctement.
Eh ben vous donc, voyez, donc oui. Il a été, que vous gardiez, que vous ayez une très mauvaise image de cet homme qui vous a trompé, trahi, qui vous a menti, c'est bien compréhensible. Mais au fond, cet homme, en tant que père... peut ne pas être si mauvais que ça, même si malheureusement, il est pris aussi dans cette histoire où, comme s'il réglait des comptes, encore à travers vous, via votre fils. Et c'est ça qui est terrible pour votre fils. Et en fait, la dame de cœur résume bien la situation. Elle dit malheureusement, votre fils est pris dans un conflit de loyauté. Avec le temps, il faut du temps. Votre fils reviendra de lui-même. C'est ce que dit aussi Cathy, qui dit il va bientôt avoir 18 ans. Il pourra faire ses choix, au fond, sans que les parents soient obligés de se parler. Elle a raison. C'est-à-dire qu'à un moment, autant l'enfant mineur, il est malheureusement tributaire et c'est du ressort du juge, bientôt il pourra dire bon, voilà, il y a cette histoire entre mes parents, j'ai baigné là-dedans, mais au fond... je suis attachée à l'un et à l'autre, et il pourra avancer comme ça. Là, si vous allez à nouveau au-devant du père, et qu'à nouveau ça tourne au conflit, voire à de la violence, non, il vaut mieux vous tenir à distance pour vous protéger, et aussi pour protéger votre fils. Voyez ? Pas aller au-devant de choses qui pourraient vous faire du mal, au sens propre comme au sens figuré, et finalement qui seraient contre-productifs au final pour votre lien. Ah, on a perdu Valérie. Valérie, allô ? Oui, bon, on me fait signe. Bon, je pense vraiment et j'espère qu'elle a entendu l'échange qu'elle a rebranché. Valérie, vous êtes là ?
Allô ?
Oui, on vous avait perdu.
Oui, oui.
Oui, j'étais en train de vous dire que ça serait contre-productif hein, d'aller au-devant. Vous voyez, c'est, n'allez pas au-devant de... Déjà ouais, d'une possible violence.
De nouveau...
Bon, voilà. Et je pense que ça serait contre-productif parce que ça serait à nouveau réactiver le conflit. Il n'y en a pas besoin. Vous, je pense que compte tenu de votre souffrance qu'on peut comprendre, ça serait important de vous apaiser et de vous rassurer sur votre lien et sur le fait que... quand vous dites la peur que vous avez que votre fils vous oublie, bien sûr que non. Bien sûr que non, qu'il ne peut pas vous oublier. Il faut que vous vous apaisiez sur, au fond, l'attachement qu'il vous porte. Mais l'attachement, il est conflictuel, du fait de la relation très complexe que vous avez eue avec son père. Il grandit. Il grandit et à un moment, il pourra, sans passer par la justice, au fond, décider et revenir vers vous.
D'accord.
Mais en attendant, vous, il faut que vous vous apaisiez un peu aussi.
Et ses sœurs, de la même manière, restent, comme on le fait jusque maintenant, des messages dans les grandes occasions, et puis on en reste
c'est
là.
C'est ça.
Parce qu'elles sont à côté, elles, c'est beaucoup plus dur encore. C'est très tentant pour elles d'aller à la sortie
du
lycée.
C'est très difficile. Alors, après tout, vous ne pouvez pas empêcher... Ses sœurs, c'est peut-être différent. Si une de ses sœurs, après tout, spontanément, si elle est à côté, a envie d'aller le voir à la sortie du lycée, laissez-la faire. Vous voyez, c'est leur lien entre frères et sœurs qui est moins... tourmenté, moins conflictuel que votre lien avec son père. Donc, après tout, c'est leur histoire aussi de fratrie. Et si une de ses sœurs, à un moment, n'y tient plus et a envie d'aller l'attendre à la sortie du lycée en disant « Écoute, tu me manques trop, prenons un café, voyons-nous, laissez-la faire. » Mais que ça ne vienne pas de vous, qu'elle ne dise pas « Maman » aussi, ou qu'elle évite, si elle le fait, de dire « Maman souffre beaucoup », vous voyez, qu'elle parle d'elle et de son frère.
D'accord. Voilà. D'accord.
Parce que ça, c'est leur lien. Et après tout, oui, il vaut mieux ne pas intervenir dedans. Donc, pourquoi pas Mais vous, pour le moment... Même si c'est difficile, gardez patience, vraiment. Et faites-vous aider en attendant, parce que c'est douloureux tout ça. Et l'histoire est douloureuse et réveille beaucoup de choses très difficiles pour vous, Valérie. Bon courage.
Merci infiniment, Caroline. Merci
au revoir.
Au revoir. Au revoir.